dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together, we can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
La vie est un roman, vous êtes sur Aligre FM 93.1. Bonjour Philippe Choyer.
Bonjour Nicolas.
Nous sommes ici dans votre bureau, une pièce lumineuse, tout en parquet et hauteur de plafond, au deuxième étage d'un immeuble cossu de Mulhouse. Ce bureau est situé rue Gutenberg, ce qui n'est pas banal pour un homme dont le métier est de publier des livres. Ces livres sont d'ailleurs rangés dans la grande bibliothèque qui me fait dos, à côté d'autres ouvrages d'auteurs qui ont compté pour vous, des Américains notamment, nous y reviendrons. Vous êtes le fondateur de la maison d'édition Mediapop, au catalogue de laquelle on compte à ce jour près d'une centaine d'ouvrages, d'écrivains, de photographes, d'artistes, tels que Christophe Fourvel, Dominique A, Bernard Plossu, Francis Kaufmann, Eileen O'Luckman, liste qui serait bien trop longue si on la voulait exhaustive. Vous éditez également des disques sous votre label Mediapop Records, et vous êtes le créateur de Novo, un magazine culturel gratuit diffusé dans tout le Grand Est, qui en est aujourd'hui à sa 12e année d'existence, et bientôt, on l'espère, son 60e numéro. Mais bien avant cette vie d'éditeur qui a commencé il y a une douzaine d'années, vous avez écrit un premier roman intitulé 666 km de bonheur qui est paru en 2000 aux éditions du Petit Véhicule. C'est donc ce matin à Philippe Choyer, l'écrivain, que je m'adresse, puisque vous venez de sortir un livre intitulé La mélancolie du danseur de slow, publié aux éditions Chic Média et qui rassemble une sélection de courts textes écrits pour les magazines Nouveau et Zut entre 2009 et 2020. Dans ces nouvelles, avec beaucoup d'élégance, d'autodérision et de mélancolie, vous mettez en scène un personnage d'éditorialiste, un peu oisif, franchement mythomane, vaguement dépressif, pas toujours tendre avec lui-même, mais qui cultive un goût certain pour l'amitié, pour la beauté et la culture, trois choses essentielles qui l'aident à vivre dans un monde qu'il comprend de moins en moins. Avant d'aborder ce recueil, j'aimerais vous demander d'où vous vient ce goût pour la littérature et l'écriture, au point que vous ayez décidé d'en faire votre vie.
Ça, c'est très compliqué pour moi de répondre à ça. En fait, j'ai pas vraiment décidé d'en faire ma vie. C'est pas passé comme ça. Il y a plutôt une suite de rencontres. C'est des rencontres qui ont décidé un peu à ma place. C'est vrai que j'ai depuis très longtemps, j'aime la presse, les livres, les disques, etc. Mais c'est vrai que j'ai rencontré Bruno Schiban en 2000 et quelques temps plus tard, j'ai commencé à écrire dans un magazine qui s'appelait Polystyrène, qu'il éditait à l'époque. Et je me suis rendu compte que c'était possible en fait de participer à une aventure de presse, alors que pour moi, jusque-là, c'était quelque chose qui. J'avais pas accès à ça en fait, j'avais pas fait d'études de journaliste. Et là, tout d'un coup, j'ai mis un pied dedans. Et ensuite, quand j'ai fondé Mediapop en 2008, qu'on a fondé Novo, d'ailleurs, je l'ai pas fondé tout seul, puisque c'était avec Bruno, avec Emmanuel Abella aussi, et avec Lionel Sily, qui était le graphiste à l'époque, qui est disparu maintenant. En faisant des magazines, on travaille avec des gens qui écrivent, on travaille avec des photographes, etc. Et j'ai commencé à faire des livres un petit peu sur le bas-côté. Et petit à petit, ça a pris de l'importance. Mais c'était pas quelque chose. Je me suis pas. Quand j'étais enfant, je rêvais pas de devenir éditeur, par exemple.
Est-ce que
C'était
vous
pas.
rêviez de devenir écrivain?
J'ai plus rêvé d'être écrivain, mais j'ai d'abord rêvé d'être footballeur professionnel, si possible, à Saint-Étienne. À l'époque des Verts. Ensuite, j'ai rêvé pas mal d'être guitar hero ou guitariste ou chanteur. Et ensuite est venu le rêve un peu de devenir écrivain. Mais c'était un peu où j'aurais peut-être aussi aimé être cinéaste, mais ça me paraissait quand même encore plus compliqué. Écrivain, ce qui est bien, c'est qu'il suffit d'avoir un stylo et un peu de papier. Donc ça, je me suis dit, c'est le seul truc qui me reste, vu que je suis pas très doué pour la musique. Et que je ne suis pas très doué pour faire des films, puisque c'est trop une gro trop grosse machine. Donc il restait ce rêve d'être écrivain, mais c'est quelque chose de. C'est pas comme quelqu'un qui écrit tous les jours et qui met des textes dans son tiroir. Moi, c'était plus ce qui m'intéressait, c'était plus la gloire finalement de me dire je suis écrivain et les gens vont dire tiens, regarde lui, il est écrivain, mais c'était pas forcément un besoin vital d'écrire constamment. Mais c'est venu à un moment donné comme ça, ce désir un petit peu diffus de devenir écrivain, mais c'est pas quelque chose.
C'était plus la figure de l'écrivain qui vous
C'est là,
intéressait.
je sais pas, il y avait quelque chose ouais, qui m'attirait là-dedans. J'aime les livres, mais ça restait quelque chose d'abstrait en fait, c'est pas. Et je me suis jamais dit, maintenant je vais tout faire pour devenir écrivain. Par exemple, il y a des gens peut-être qui se disent, je veux être écrivain et qui vont se mettre à leur table de travail tous les jours, du matin au soir. Moi, ça n'a jamais été le cas. Par contre, d'avoir écrit ce premier livre en 2000, je pensais en avoir fini avec ce rêve finalement, parce que il y a ce livre qui a été publié. Je me suis rendu compte que c'était agréable d'avoir publié et en même temps, ça n'avait pas changé grand-chose à ma vie. Et c'était plutôt une manière de clore un peu ce rêve post-adolescent, en fait, de devenir écrivain. Et je pensais que j'en avais fini avec ça jusqu'à ce que les choses recommencent un petit peu, mais de manière différente.
Alors justement, comment elles ont recommencé ces choses? Comment sont nés ces textes et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de les rassembler dans ce volume?
Alors les textes, ils sont nés parce que effectivement, il y avait toujours cette envie d'écrire, effectivement. Et quand j'ai commencé à écrire pour des magazines, ben, j'ai commencé à placer mes textes, en gros. Et comme je me sentais incapable d'écrire le gros roman que j'aurais aimé écrire, un roman de 500 pages avec du souffle et tout, je voyais bien qu'au bout de 3 pages, je calais. Je me suis dit, au moins, je peux faire ça, d'écrire des tout petits textes sur une page dans des magazines. Et c'est quelque chose qui a à m'apporter, en tout cas, ça va pas me prendre des mois et des mois. Et donc j'ai eu cette opportunité, cette occasion avec Polystyrène, qui est devenu Poly, puis Novo. Et comme j'étais un des deux éditeurs, ben, c'était facile de réserver le créneau, et c'est ce que j'ai fait. On m'a proposé de le faire aussi dans Zut, j'ai pas refusé, j'étais plutôt fier de pouvoir faire ça. Enfin, je trouvais ça très agréable. Et c'est vrai que du coup, ça a un peu remplacé l'idée de faire des livres, elle s'est un petit peu éloignée finalement. J'avais une petite dose de plaisir tous les 2 mois, comme ça, tous les mois, les magazines me permettent d'éditer, de publier un petit texte. Donc j'avais perdu un peu cette idée du recueil, même si il y a quelques années, il y a un éditeur, la dernière goutte, qui m'avait dit, ah, tes textes sont bien, on pourrait peut-être faire un recueil, mais il était assez exigeant et il aurait voulu peut-être que je les retravaille, que je les réécrive de manière un peu plus longue, et ça, c'était. Je ne me sentais pas de faire ça. Par contre, je lui promettais des choses que je n'ai jamais vraiment avancées. Et puis un jour, il y a Bruno, mon associé, qui a eu cette idée folle un peu de rassembler les textes. Et au départ, j'ai freiné un peu. Ça m'a fait peur et je me suis dit, oh là, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il me fait et tout. J'avais l'impression que ça m'échappait, qu'il allait faire ça un petit peu à sa sauce et que j'allais pas m'y retrouver. Donc j'ai été un petit peu. J'ai pas sauté de joie quand il m'a annoncé ça, mais petit à petit, les choses se sont affinées et finalement, je suis très content du résultat.
Alors d'ailleurs, pour en revenir à ces textes, vous avancez un petit peu masqué parce que à l'origine, donc c'était des textes qui étaient publiés dans ces revues que vous avez citées. C'était censé être des éditos. Et quand on les lit, on se retrouve en face de petites histoires, de fictions, de nouvelles qui n'ont rien à voir avec des éditos. C'était délibéré cette volonté de court-circuiter un peu comme ça l'exercice du genre éditorial.
C'est pas que ce soit délibéré, c'est que en fait l'avantage de l'édito, c'est que ça se place au début du magazine. Donc moi, c'est un espace qui me plaisait bien parce que il y a des gens qui lisent la première page d'un magazine et après. Et donc, mais c'est vrai que j'ai pas voulu faire ce que font la plupart des gens qui font les éditos dans les magazines culturels comme Novo ou les magazines comme Zut. Et qui en gros annonce le sommaire de ce qui va y avoir dans le magazine en disant bah on a ce super article, on a cette super enquête, on a ce magnifique portfolio, c'est génial, on est les meilleurs, lisez-nous. J'ai trouvé que c'était un peu ennuyeux de faire ça. Et puis surtout ça ne m'intéressait pas et je voyais il y avait un côté publicitaire et je me disais c'est dommage de gâcher du papier pour faire ça. En fait, les gens sont assez grands pour étudier un sommaire ou pour feuilleter un magazine et voir s'il y a des choses qui les intéressent ou pas. Donc, très vite, je me suis dit, ben, je vais utiliser cet espace pour placer mes petits textes à moi. Et puis, ça va être plus original que ce que font les autres. C'était ça un petit peu l'idée de départ. Mais on aurait dû appeler ça autrement qu'édito. Mais comme on a laissé le terme d'édito pour les premiers numéros, on n'a jamais décidé de changer, c'est resté édito, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec des éditos.
Alors il y a une contrainte dans ces textes, dans cette écriture d'édito, c'est la taille. Vous ne devez pas dépasser 2500 signes. Comment on appréhende cette contrainte très forte lorsqu'il s'agit d'écrire des histoires?
En fait, c'est une contrainte qui me plaît bien, et puis la contrainte, je pense que ça me plaît bien en général. Il y a la contrainte de temps qui est encore plus importante, c'est que à un moment donné, il y a le bouclage du magazine qui approche, c'est le moment où le magazine doit être terminé et partir chez l'imprimeur. Et moi, c'est ça la première contrainte, et c'est ce qui me met un petit peu le coup de pied aux fesses, enfin le pied à l'étrier, c'est le moment où je me rends compte qu'il reste plus que 2 jours et que le magazine va partir chez l'imprimeur. La plupart des gens qui écrivent dans nos magazines, ils ont un peu ce côté d'attendre le dernier moment pour rendre leur texte. Et moi,
D'être dos au mur, quoi.
voilà, d'attendre d'être dos au mur. Moi, je suis pareil en fait. Alors de temps en temps, j'ai une idée qui vient longtemps avant le moment du bouclage, mais souvent c'est vraiment le 2 jours avant que tout d'un coup j'ai l'idée de l'édito. Et après, effectivement, la deuxième contrainte, c'est la taille, mais moi, elle me va bien, c'est un format qui me convient assez. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que si on me disait s'il faut faire 50 pages, ben, ça serait pas possible, parce que j'ai l'impression que mes histoires, elles s'essoufflent au bout de quelques pages très vite. C'est un vrai souci pour moi, en fait, parce que j'aimerais bien être capable d'écrire un vrai roman, mais ça s'essouffle très vite. Et pour Zut, il y a des éditions de Zut qui sont en franco-allemande. Là, la contrainte, c'est encore plus dur parce que le texte est plus court. Et là, c'est trop compliqué pour moi. Je me suis rendu compte que c'était vraiment dur en 1000-1500 signes, c'est difficile d'installer quelque chose, d'installer une histoire, des personnages, un climat, etc.
D'ailleurs, même si le principe est le même, j'ai le sentiment que l'exercice d'écriture pour Zut est un petit peu différent de celui pour Novo. J'ai l'impression que dans Zut, ce n'est pas tout à fait le même personnage qui parle. Il est légèrement moins angoissé, peut-être légèrement plus dandy aussi, mythomane, dragueur. Est-ce que je me trompe?
Non, non, tout à fait. C'est vrai qu'il y a un côté nouveau. J'ai un peu plus de pression parce que c'est un magazine culturel quand même, qui a une bonne image, des lecteurs sérieux et tout. Donc je m'oblige un petit peu à essayer d'être un tout petit peu profond comme ça. Alors que Zut, comme c'est un magazine mode, déco, design, que moi je suis un peu un gros plouc, ben je joue avec ça et je me sens un peu plus libre d'être un peu plus délirant, effectivement, de m'inventer une vie avec Kate Moss qui est complètement improbable. C'est peut-être, je me sens peut-être un peu plus libre de rigoler, de faire un peu n'importe quoi.
Alors maintenant que toutes ces histoires sont rassemblées dans un bout à bout, est-ce que le fait justement de les avoir mises ensemble, ça vous donne un regard différent sur elles? Parce que c'est vrai que quand on les lit justement, bah, naît une sorte de cohérence. Tout ça prend une dimension peut-être encore plus forte que lorsqu'on les lit à 2 mois d'écart, comme c'est le cas lorsqu'on les découvre dans Nouveau ou dans Zut.
J'ai l'impression que c'est surtout les lecteurs qui ressentent ça, parce que j'ai eu quelques échos de gens qui me lisaient un petit peu dans Novo, par exemple, qui n'avaient pas forcément lu dans Zut ou inversement, et qui, eux, d'avoir l'accumulation comme ça, ils se rendent compte que c'est pas si mal. Je me suis surpris quand même à feuilleter le livre il y a quelques jours et à avoir du plaisir à lire certaines histoires. Je me suis dit, je suis vraiment un gros malade, quoi. En fait, il y a un côté comme ça narcissique, côté un peu plaisir solitaire qui est presque gênant, quoi. Je me dis, il faut que je fasse gaffe là. Si je commence à avoir du plaisir à lire mon propre livre, c'est étrange. Parce qu'a priori, les textes que j'écris, je les relis pas trop. Enfin, c'est bizarre. Mais là, c'est vrai que moi, j'aime bien l'idée de traces. Et donc là, le livre, finalement, je me dis, même si un jour on me met en maison de retraite, peut-être que je pourrais emporter le livre avec moi. Alors que les magazines, je ne vais pas trimballer 200 magazines comme ça prend énormément de place, c'est lourd, etc. Et là, tout est rassemblé, c'est chouette, je peux l'offrir à des gens que j'aime bien, je regarde au show pour mon fils plus tard, peut-être, des choses comme ça. Enfin, il y a un vrai plaisir.
Alors ce plaisir, il vient peut-être aussi du fait que le personnage qui est mis en scène dans ces histoires, il vous ressemble. Enfin, on peut en parler un petit peu. Ça n'est pas vous, mais il partage votre goût pour les grands écrivains américains, pour le cinéma de Cassavetes, de Truffaut ou de Nanni Moretti. Il partage également votre culture musicale, qui va des Clash à Dominique A, en passant par Patti Smith, Alain Bachung, Johnny Cash, la musique a vraiment une importance dans vos histoires. Ce personnage, il aime aussi ne rien faire, musarder, se promener à vélo, déguster une bière bien fraîche en terrasse d'un café, ce qui est compliqué en ce moment. Aborder une jolie femme assise à côté de lui, partager un barbecue avec ses amis, puis danser jusqu'au petit matin. Au fond, j'ai l'impression que vous vous servez de lui pour aborder des choses que vous avez sur le cœur, des enthousiasmes, des états d'âme, des situations qui vous révoltent, des angoisses existentielles. C'est un petit peu comme dans un jeu de rôle. Vous vous amusez à imaginer ce qui pourrait vous arriver de mieux ou de pire, selon le point de vue d'où on se place.
Oui, forcément, il doit y avoir de moi dans le personnage. Des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de moi, et puis les gens voient des choses. Donc, c'est toujours intéressant aussi ce que les gens projettent. Des fois aussi, je raconte des choses qui me semblent vraiment de la fiction pure. J'invente des choses, et il y a des gens qui me lisent et qui prennent ça vraiment pour argent comptant. Ça peut être très perturbant aussi de voir à quel point les gens. Tout ce qui est écrit, en fait, c'est forcément vrai. Il y a beaucoup de gens comme ça qui mettent pas en doute l'écrit, qui ont pas de recul par rapport à ça, et qui, depuis le temps que j'écris des choses un peu qui me paraissent pas tout à fait la réalité, mais ils ont toujours pas compris. Ils sont persuadés effectivement que je raconte ma vie. Moi, j'ai l'impression que j'embellis pas mal quand même. Je suis pas tant invité que ça à des barbecues chez mes amis, ça arrive quand même, mais je passe pas trop de soirées à boire du champagne comme ça, comme un dandy. C'est pas tellement ma vie. Enfin, j'ai l'impression que je trafique pas mal. Hein, donc, et après, au niveau des écrivains américains, tout ça, En fait, ma culture, elle reste très superficielle, mais comme les textes sont très courts, là, il suffit que je mette une ligne sur Raymond Carver, et après, les gens s'imaginent que je suis peut-être un grand spécialiste, etc. Mais c'est pas le cas. Par contre, c'est vrai que j'aime bien mettre ces petites références, parce que, à la fois, c'est aussi dans un souci de partage, parce que c'est important et que le magazine, ça sert à ça, et peut-être Il y a des gens qui, en lisant le livre là, ces derniers jours, m'ont dit que ça leur avait donné envie de lire certains écrivains. Donc ça, je trouve ça très bien, parce que moi, j'assume, hein, les écrivains dont je parle, la plupart, c'est quand même des gens que je trouve remarquables. Donc ça me fait plaisir si les gens vont regarder un peu, vont écouter, etc. Donc je m'interdis un peu de mettre des choses trop pointues aussi, parce que je veux pas faire mon pédant ou faire semblant de connaître plein de choses qui n'est pas le cas. Enfin, et je trouve que dans Novo, par exemple, ou même dans Zut, on se doit d'être accessible et j'ai pas envie de jouer le rôle de le gars complètement intello qui m'a des références pas possibles avec des noms à coucher dehors. Donc c'est pour ça aussi que je choisis des gens, plus que Nanni Moretti, enfin tout le monde a entendu parler de lui quand même, mais c'est des gens que, c'est des artistes, des écrivains, etc., que j'aime beaucoup, qui m'accompagnent effectivement.
Ce qui est étrange, c'est que c'est quasiment tous des artistes, des écrivains, des cinéastes qui incarnaient presque physiquement leur création. C'était des personnages avant même presque d'être des auteurs. C'était des gens qui étaient porteurs d'un style. Et votre personnage, il est un petit peu comme ça, j'ai l'impression aussi.
J'avais jamais pensé à ça, mais c'est bien de me le faire remarquer. Va falloir que je réfléchisse. Si, mais c'est vrai. En tout cas, Nanni Moretti, c'est frappant. C'est vrai. Moi, je suis vraiment le Nanni Moretti du pauvre, hein, le Nanni Moretti à vélo, sans caméra, mais avec un stylo, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, c'est tout ce que j'aime parce que ses films, il n'a pas besoin forcément d'énormes moyens. Il se filme sur une Vespa et ça fonctionne, quoi. Enfin. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Après, je sais pas si c'est ça que j'aime. C'est peut-être que je parle de ces écrivains parce que justement, ils me viennent en tête plus facilement parce il y a une image comme ça et que c'est aussi des références. Quand on parle de Bukowski, même les gens qui n'ont pas lu Bukowski, ils imaginent tout de suite qui c'est. Et moi, je suis souvent, enfin toujours, je fais très attention à ça, à essayer de faire en sorte que ce soit pas que tout le monde comprenne en fait ce que j'écris. J'essaye d'être assez clair et que ce soit accessible à tout le monde. C'est quelque chose qui est important pour moi. Et c'est vrai que j'essaye de pas faire trop de style, enfin de pas faire des phrases trop longues, que ce soit lisible. C'est vraiment un vrai souci.
On reviendra sur cette question du style. Je me disais aussi, ce personnage, il est assez angoissé en fait. Il est porteur d'un certain nombre de névroses qui sont causées, provoquées par un état défaillant du monde. J'ai l'impression que ces textes, le fait de les avoir écrits et le fait aussi de mettre un personnage qui a du mal à se dépêtrer de tout ça, c'est peut-être une manière d'évacuer cette pression que la société exerce sur nous. En tant qu'individu, vous en tant qu'entrepreneur par exemple, ou que citoyen, est-ce qu'il y avait cette dimension d'exutoire dans l'autofiction telle que vous la pratiquez?
Alors là, honnêtement, c'est difficile pour moi de répondre à ça, mais c'est vrai que j'ai l'impression que je suis pas du tout aussi angoissé que mon personnage, mais peut-être que je le suis quand même, j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'aime bien accentuer ça, et c'est vrai que parfois, quand je parle de certaines de mes angoisses, je pense à des amis qui sont peut-être plus angoissés que moi, et je prends leur trait, quoi, en gros. Hein. Mais moi, j'aime bien, c'est un côté un peu caricature, enfin. Mais j'ai pas l'impression d'être comme ça. Après, c'est vrai que quand j'ai des soucis avec ma banquière pour mon entreprise, pour le magazine et tout, des fois je peux être assez énervé parce que ma banquière, effectivement, elle va me refuser des prêts ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui va m'énerver, mais ça va pas me rendre complètement malade. Mais par contre, je vais prendre un malin plaisir après à en parler dans mes éditos et à exagérer la chose et à m'imaginer même me faire harakiri dans son bureau. C'est quelque chose qui c'est quelque chose que là c'est effectivement c'est peut-être il y a peut-être une forme d'exutoire. Mais en tout cas je me suis pas réveillé un matin en me disant je vais écrire des éditos pour me faire du bien etc. Pour chasser mes angoisses c'est pas ça. Mais c'est vrai qu'après, quand on écrit, on est un petit peu une éponge, et c'est vrai que peut-être que c'est inconscient à ce moment-là, je sais pas. Mais j'ai l'impression que je suis un tout petit peu moins névrosé que mon personnage.
C'est un livre aussi qui chronique les 10 années qui viennent de s'écouler. Vous n'abordez jamais l'actualité de manière frontale, mais cette actualité demeure une sorte de bruit de fond bien présent, qui est quand même assez obsédant dans le livre. On prend la mesure de tout ce qui a agité ce monde ces derniers temps, et vous vous confrontez vraiment aux contemporains. Vous posez la question de comment vivre dans un monde secoué par de multiples crises économiques, politiques, par des catastrophes comme Fukushima, par le réchauffement climatique, par les printemps arabes, par Daesh, les attentats en France, la crise des migrants, Trump, le Brexit, les gilets jaunes, le coronavirus, enfin voilà, la liste est très très longue. Donc on le voit, ce sont des textes qui sont ancrés dans le contemporain. Ça, c'était quelque chose que vous souhaitiez absolument faire, qui était important pour vous, de parler de l'actuel?
Oui, c'est important parce que je pense que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une tribune comme ça dans les magazines, et je me dis, c'est idiot de ne pas en profiter pour quand même rappeler certaines choses ou attirer l'attention sur certaines autres. J'ai l'impression que c'est un peu une sorte de responsabilité, mais par contre, quand on entend l'énumération comme ça, on a l'impression que mes textes sont vraiment... que c'est poussé, enfin, que je vais parler...
Alors c'est simplement qu'il couvre 12 années, quasiment, et donc il s'est passé énormément de choses. On a l'impression que les choses se sont accélérées ces dernières années, et que d'une séquence, on a chassé une autre, et allant toujours vers plus de... catastrophe ou de catastrophisme, en tout cas.
Mais après, quand je parle de Fukushima, ça va être deux phrases et ça va pas être une analyse très pointue, etc. C'est juste
à bas bruit.
C'est à bas bruit, ou c'est des sortes de points de repère, effectivement. Et c'est vrai que j'avais pas envie de coller à l'actu culturelle, par exemple du Grand Est, la zone dans laquelle est diffusé Novo. Mais c'est vrai qu'il y a des questions comme ça importantes de temps en temps, et j'aime bien revenir dessus. Alors les migrants, je reviens souvent là-dessus, c'est vrai. Les migrants qui se noient pendant que nous on se plaint de ne pas pouvoir boire des bières, c'est quelque chose qui revient souvent dans mes textes. Mais je sais pas, j'aime bien, effectivement, je me sens pas du tout capable d'être un vrai éditorialiste qui va dire aux gens ce qu'il faut penser, et ça serait vraiment malvenu de ma part de faire ça. Mais par contre, de glisser comme ça des petites pensées, entre guillemets, ou des petits rappels, ou de montrer que les personnages qui interviennent dans mes textes sont concernés par, effectivement, le réchauffement climatique ou l'élection de Trump, ça, c'est des choses qui me semblent importantes. Ouais.
D'ailleurs, votre personnage, il est hanté par une sorte de regret, celui de ne pas être parvenu à changer le monde. On sent qu'il a rangé un peu ses idéaux au placard, au profit d'un certain pragmatisme. Dans Camping Sauvage, par exemple, alors qu'il se retrouve nez à nez avec des gilets jaunes, il se qualifie lui-même de rebelle de salon. Le portrait est assez féroce, là. Enfin, l'autoportrait, en tout cas.
Non, mais c'est pas... Là, je trouve même pas que ce soit féroce. C'est valable pour moi, c'est valable pour beaucoup de gens. C'est vrai qu'il y a un temps où, quand on est jeune et tout, peut-être qu'on s'imagine un peu plus rebelle que ce qu'on est à mon âge, quoi. Et c'est vrai qu'on est un peu ridicule, parce que... on n'est pas prêt à risquer grand-chose, finalement, pour les causes qu'on aurait envie de défendre. Quand on écrit, effectivement, ça permet de prendre un peu de temps et de réfléchir à tout ça. Et c'est vrai que moi, je suis toujours... j'aime bien regarder vers l'avenir. Moi, j'aime aussi beaucoup me rappeler de l'adolescent ou du jeune homme que j'étais, un peu de mes idéaux, des histoires d'amitié. Quand on a 17 ans, c'est pas les mêmes que quand on a 50 ans et plus, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté, je sais pas si j'ai vraiment voulu changer le monde à un moment donné, mais j'ai l'impression maintenant, rétrospectivement, que peut-être à une époque, j'y croyais un peu plus, même peut-être beaucoup plus que maintenant. Et c'est quelque chose que j'aime bien rappeler, j'aime bien me le rappeler à moi-même surtout. Et je le rappelle aux autres en me disant peut-être que ça va parler à d'autres gens aussi, j'en sais rien. Mais c'est effectivement une de mes obsessions d'essayer de voir s'il y a une cohérence entre l'enfant, l'ado que j'étais et l'adulte que je suis devenu. Est-ce que j'ai remisé tous mes idéaux ou est-ce qu'il y a des choses qui restent? Je sais pas.
La résignation, le renoncement, c'est quelque chose qui plane comme ça un peu, qui est dans l'air en tout cas de ces histoires, et qui plane sur le personnage comme une ombre. Il y a en permanence ce sentiment d'être un imposteur, un écrivain raté, de ne pas parvenir à être un pur et dur, entre guillemets, comme seraient Hemingway ou Bukowski, qui ont tout sacrifié pour l'écriture. L'exercice d'autoflagellation, il est poussé assez loin. Est-ce que c'était une manière de prendre des distances avec ses idéaux et ses rêves d'enfance se sont éloignés, ou est-ce que c'est une manière de régler des comptes avec vous-même?
Non, c'est plus une forme de pudeur. Si je me présente comme Hemingway, tout le monde va se moquer de moi, c'est clair. Alors que là, je me moque de moi avant les autres, donc c'est trop... je coupe l'herbe sous les pieds un peu des gens qui auraient pu se moquer de moi, en fait.
Là, vous le dites, Hemingway, il n'a pas vendu de pub, mais il est mort, en tout cas, de sa posture d'écrivain total.
Voilà, moi, j'ai pas du tout envie de me tirer une balle, etc. Moi, je suis quelqu'un de plus raisonnable, en gros. Et c'est vrai que si je me positionnais comme un super écrivain, super viril et tout, j'aurais l'air assez ridicule. Donc je préfère me mettre dans la... position d'un personnage un peu à la Nanni Moretti ou peut-être Woody Allen. Je suis moins fan de Woody Allen, mais un peu ce côté de glisser dans la peau de quelqu'un d'un peu névrosé, ridicule, etc. Donc les gens vont avoir plus finalement de je sais pas comment dire, mais de tendresse pour moi que si je faisais le gros macho, quoi. C'est plus ça, en fait, je pense, qui fait que régulièrement, et j'aime bien un peu accentuer mes travers, mes côtés ridicules, etc. Et puis aussi parce qu'il y a cette volonté de faire rire qui, je pense, qui est assez présente chez moi depuis toujours. Quand j'étais au collège, j'avais envie de faire rire mes copains. Ben maintenant, c'est presque plus important que tout, finalement. J'aime pas tellement les livres qui sont faits pour faire rire, et j'espère que c'est pas un livre comme ça, mais en même temps, j'aime bien au moins faire sourire, quoi, quand j'écris.
Alors, contre l'absurdité et la violence de plus en plus concrète du monde, votre personnage oppose plusieurs stratégies. Il y a l'oisiveté, vos textes font souvent l'éloge de la lenteur, de l'inefficacité, du temps que l'on gagne à perdre. Mais il y a aussi la fuite, et c'est un livre qui est bourré d'échappées physiques ou imaginaires. Votre personnage passe son temps à fuir le réel, que ce soit en voiture, sur un vélo, dans son sommeil. Il y a toujours le désir chez lui d'être quelqu'un d'autre et de préférence en partance pour une destination inconnue, un bout du monde. Je crois savoir que c'était aussi le thème de votre premier roman, 666 km de bonheur, cette
Non,
espèce de manière de prendre la route et de quitter sa condition.
Oui, je sais pas si c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment dans la vie, mais en tout cas, ça facilite l'écriture. C'est plutôt ça, en fait, c'est une sorte de facilité aussi. Je pense que si on n'a pas d'idée, si on ne sait pas quoi tourner comme film, eh ben on prend une voiture et on met des gens dans la voiture et on les filme en train d'avancer dans le paysage et ça fait un film qui tient peut-être la route. En tout cas, c'est plus facile pour moi que de filmer quelqu'un qui est seul dans sa chambre et qui ne bouge pas du matin au soir. Là, je trouve que c'est très compliqué et je suis admiratif pour les gens qui arrivent à écrire un livre qui se passe dans une pièce et qui n'en sortent pas de cette pièce. Moi, j'ai besoin effectivement de mouvement. Alors, ça va être moi sur mon vélo, ça va être moi sur l'autoroute des vacances qui m'arrête dans une station-service, ça va être des choses comme ça. Mais c'est vraiment lié au moment où je dois me mettre derrière mon ordinateur pour écrire un texte. Ça, c'est un déclencheur un peu, le mouvement. Et le mouvement va entraîner des rencontres avec un paysage, mais surtout rencontres avec des gens. C'est plutôt cette facilité-là, en fait. Après, l'histoire de la lenteur, de la flemmardise et tout, c'est marrant parce que je m'en étais même pas tellement rendu compte, mais c'est vrai que c'est aussi, je sais pas comment dire, ça fait partie de moi apparemment, parce que moi j'ai l'impression d'être surbooké, de faire plein de choses, de travailler du matin au soir, etc. Mais les gens qui me croisent dans Mulhouse et tout, ils sont toujours persuadés que je suis en train de glander entre deux verres en terrasse, donc ça doit faire partie de ma façon de parler, de ma façon d'être, de ma façon de faire du vélo, j'en sais rien, il y a quelque chose comme ça, j'arriverai jamais à me faire passer pour Bernard Tapie ou Nicolas Sarkozy, en fait, ça marche pas. Voilà. Si
C'est
même
pas
dans
plus
mes,
mal.
c'est vrai, même si c'est, si c'est même dans, si ça ressort même dans mes textes, sans que je m'en rende compte, mais je sais pas. En tout cas, c'est vrai que j'ai plus de sympathie pour les gens qui prennent le temps de vivre, qui sont pas happés comme ça par la machine et par l'appât du gain ou des choses comme ça. J'ai de la sympathie pour ces gens-là. Et c'est vrai qu'autour de moi, j'ai des amis comme ça qui font pas grand-chose, apparemment en tout cas, de leur vie. Et je trouve que ils ont souvent des vies nettement plus intéressantes que ceux qui travaillent et qui ont une vie très occupée. Donc ça doit être, c'est peut-être un peu de l'envie de ma part. Peut-être que j'aimerais être un peu plus cette personne qui flâne, qui flémardise, voilà.
Alors ce narrateur, la première personne du singulier, il se réfugie aussi volontiers dans l'amitié. Il y a de très belles pages sur l'amitié, parfois émouvantes aussi lorsque vous évoquez des amis qui ont disparu. L'amitié, les rencontres comme finalement des façons d'oublier aussi là, les affres du monde actuel et cette vitesse croissante. C'est un livre très pudique en même temps, parce que vous parlez beaucoup d'amitié, mais peu d'amour.
Ouais, c'est vrai, c'est un peu banal de dire ça, mais c'est vrai que c'est important l'amitié, et ça se cultive surtout, et c'est vrai que moi j'aime bien cultiver l'amitié, je la cultive sans doute pas assez, mais en tout cas j'ai une sorte de fidélité à mes amis, même mes amis d'enfance, mes amis d'adolescence, etc. Et le fait d'écrire ça régulièrement, de mettre ça sur le papier, j'ai l'impression que ça me rappelle même, c'est un rappel pour moi aussi, en fait, de me redire, mais attends, les amis, c'est vraiment important, c'est beau. Et c'est vrai que quand de temps en temps, je vis des moments forts comme ça avec des amis, ça peut être une soirée, ça peut être un barbecue, ça peut être aussi un enterrement où on se retrouve entre amis, où il y a une musique, où tout le monde a envie de pleurer. C'est des choses que je quitte, c'est des moments tellement forts. Que comme je suis pas capable d'en faire un film comme Cassavetes, ben j'essaye d'en faire des petits textes, de coucher ça sur le papier, même si c'est très difficile d'être à la hauteur de ce qu'on peut vivre dans ces moments-là, en fait. Mais c'est vrai que l'amitié, je pense que si je devais faire un livre un jour, ça serait peut-être un livre sur l'amitié, mais il faut y arriver, mais ça, c'est une histoire qui, ça me plairait bien. Pour ce qui est de l'amour, comme je suis comblé dans mon couple depuis longtemps et tout, ben, je vois pas trop ce que je pourrais inventer de très rigolo, donc c'est plus compliqué pour moi d'en parler.
C'est plus compliqué, et puis c'est peut-être plus compliqué de tout simplement aussi d'aborder ce thème de l'amitié, puisque enfin, l'amour, c'est un thème qui est très souvent abordé en littérature, l'amitié peut-être un peu moins.
Oui, je sais pas non plus, mais en tout cas, c'est vrai que les histoires d'amitié me touchent. Le film, par exemple, Nous nous sommes tant aimés, c'est un film
Qui revient plusieurs fois.
qui revient, mais c'est en fait mon spectre est pas très large, mais j'ai un peu les mêmes obsessions, mais c'est vraiment un film qui me touche parce que c'est une histoire d'amitié, des gens qui se retrouvent à plusieurs différentes époques de leur vie, et c'est vraiment tout ce que j'aime, et je trouve qu'il y a un côté effectivement romanesque, cinématographique, quand on retombe sur des vieux amis. Souvent, on peut être déçu aussi parce que des amis qui étaient très proches à certaines périodes de notre vie, on les retrouve et on n'a plus grand-chose à se dire. Et ça fait aussi partie des histoires que j'aime raconter, ça. Il s'agit pas toujours de dire que l'amitié fonctionne à fond tout le temps, etc. Les amis, ça peut être aussi pénible quand ils téléphonent au milieu de la nuit pour dire qu'ils vont pas bien ou des choses comme ça,
Mais d'ailleurs, le personnage a souvent un ami qui vient de se faire plaquer, ou un ami qui vient de perdre son boulot, ou voire un ami qui vient de se faire plaquer et perdre son boulot.
Ouais, mais ça c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup d'inventions là-dedans. C'est vrai que
C'est la vie, tout
c'est un
simplement.
peu la vie, ouais, mais moi ça m'arrive souvent. Et pas plus tard que la semaine dernière, il y a un ami vraiment, ou quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, que j'aime beaucoup, mais qui habite à l'autre bout de la France et que j'ai pas vu depuis presque 20 ans, qui m'a appelé comme ça et qui m'a demandé de lui signer un contrat parce qu'il avait envie d'écrire un livre sur l'alcool. Et en l'entendant au téléphone, je me suis dit qu'il devait avoir effectivement peut-être un souci avec l'alcool et que je ne pouvais pas lui dire non, en fait, c'était important. Et c'était assez cinématographique ou romanesque comme coup de fil, vraiment, à 1 h du matin, d'avoir un appel comme ça et quelqu'un qui dit, écoute, c'est important, je veux écrire un livre. Et je lui ai tout de suite dit oui, je lui ai envoyé un contrat. Le lendemain, avec une avance de 100 euros, c'est ce qui était convenu entre nous. Et je crois que ça, j'espère que ça lui a fait du bien et j'espère qu'il écrira ce livre parce que c'est quelqu'un qui est très intelligent et qui a énormément de talent. Et je sais pas exactement ce qui lui arrive, mais en tout cas, je pense que peut-être qu'il y aura un livre dans quelques mois qui sera publié chez Mediapop qui parlera de ça, je sais pas.
La dernière valeur, un refuge de votre personnage, c'est la culture. Vous aimez, on l'a dit, truffer vos histoires de référence à des artistes, à des musiciens, des cinéastes. À un moment donné, dans un des textes, votre personnage est dans une salle d'attente et il lit un livre américain, enfin d'un auteur américain, et un vieil homme lui demande qu'est-ce qu'ils ont de plus, les Américains?
Je sais pas, en fait, ce qu'ils ont de plus, c'est que je suis allé vers eux, et puis au lieu d'aller vers des Russes ou des Indiens ou des Japonais, enfin, même si j'ai lu quand même quelques auteurs un peu japonais, etc. Mais je sais pas, peut-être que ceux dont on parle, ils ont le côté, il y a l'alcool, il y a les difficultés avec les femmes, il y a la vie parfois dure, certains ont travaillé à l'usine, ils racontent ça dans leur livre et c'est quelque chose qui me touche. Moi, j'aime ça en fait. Je suis pas très attiré par les écrivains de salon, les choses comme ça. Mais j'aime bien les gens qui ont, ce qui est pas mon cas, hein, mais qui ont des vies un peu dures. des gens qui sont un peu cabossés, ça c'est des gens que je trouve intéressants. Après, il se trouve que effectivement les écrivains dont on parle, ils parlent beaucoup de ça. Je trouve que autant l'alcool à vivre, c'est pas très agréable, mais c'est vrai que dans les livres, c'est intéressant parce que ça exacerbe beaucoup de choses aussi.
D'ailleurs, c'est ce que vous observez dans une de vos histoires, je vous cite. De retour au bureau, j'ai réalisé que de nombreux écrivains que j'aimais avaient un sérieux problème avec l'alcool. Charles Bukowski, Fante père et fils, Raymond Carver, Richard Brautigan ou Lucia Berlin, que je venais tout juste de découvrir. Peut-être que si j'avais autant de mal à trouver l'inspiration, c'était que je n'en avais pas assez bavé. Et comme je n'étais ni noir ni américain, pas question de singer Chester Himes, James Baldwin ou Richard Wright. Il me restait Welbeck, mais l'idée de le prendre pour modèle était aussi déprimante que de chercher l'inspiration. Vous pensez réellement qu'il faut payer de sa personne pour devenir un véritable écrivain?
Ah oui, je pense quand même un petit peu. Et c'est vrai que j'aime bien ce passage. C'est vraiment gentil de l'avoir cité. C'est un passage que j'aime bien. Et dans lequel j'ai vraiment mis tous les gens que j'aime beaucoup. Et pour moi, il y a les Américains, mais il y a aussi les Noirs, les auteurs noirs américains qui ont beaucoup compté. Maintenant, je les ai lus, ceux-là. Mais c'est quand j'avais 18, 19, 20 ans, j'ai lu tout Chester Himes, Richard Wright. Je l'ai lu très tôt parce que j'ai lu Black Boy quand j'étais gamin encore.
Je crois que c'est votre père aussi qui vous a guidé
Ouais,
vers cette
bah, il
littérature.
m'avait offert ce bouquin comme ça, hein. C'est pas qu'il m'ait guidé, mais c'est un peu les hasards, je sais pas trop pourquoi. Il m'avait offert Black Boy que j'avais apporté avec moi. J'étais parti chez mon correspondant en Angleterre, donc c'était la première fois que j'étais coupé de ma famille, de mon pays, etc. Et j'avais ce livre et ça m'a vraiment. Je pense que ça a modifié un peu le cours de ma vie. Je me suis intéressé aux Noirs, etc. Enfin, je sais pas. Ça m'a marqué et j'ai lu ces autres livres, Le Transfuge, etc. C'est des livres que j'ai vraiment beaucoup aimés, Chester Himes aussi. Mais j'ai pas du tout leur vie, en fait. J'ai pas du tout vécu ce qu'ils ont vécu, ni rien du tout. Donc moi, j'ai moins de choses, forcément, j'ai moins de choses à raconter. Eux, se sont beaucoup servis de ce qu'ils avaient enduré, en fait, la ségrégation, etc. Et alors, Raymond Carver et compagnie, bah, eux, ils ont vécu effectivement un problème d'alcool et tout. Moi, heureusement, j'ai rencontré Nicole qui m'a fait arrêter de boire à temps, donc j'ai pas vécu ça. Par contre, autour de moi, à Mulhouse, j'ai pas mal d'amis qui ont continué de faire la fête un peu plus longtemps que moi, de boire, etc., et qui ont un peu, pour certains, des soucis avec l'alcool. Et c'est vrai que ça me touche parce que je sais que c'est super dur de vivre ça, etc. Et je me sens pas du tout légitime pour en parler comme on parle. Bukowski, moi je suis pas là-dedans, mais par contre, d'effleurer la question, c'est vrai que ça m'intéresse.
On parle d'écrivains américains, mais on cite, enfin vous citez également Michel Houellebecq, c'est un des rares d'ailleurs écrivains français qui a grâce à vos yeux dans le livre. Et vous avez un drôle de rapport avec Michel Houellebecq. On sent que vous admirez à la fois l'écrivain, mais qu'en même temps vous avez des réserves sur l'homme, comme s'il ne portait pas assez cette figure un peu mythique de l'écrivain, enfin pas du tout même.
Puis non. Non, il s'est créé un personnage qui est au niveau, hein, il n'y a pas de souci. Moi, c'est vraiment un écrivain que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ses livres. Par contre, je partirai pas en week-end ou en vacances avec lui. C'est ça, c'est plutôt pour ça que je parle de lui, quoi. Et j'aime bien rigoler avec ça, en fait. C'est que, effectivement, il y a peut-être des fois des écrivains qu'on aime. Et on se dit, c'est vraiment quelqu'un de chouette, si je le rencontrais, j'aimerais bien devenir son ami. Michel Houellebecq, il se trouve que je l'ai interviewé, que ça a été un grand moment pour moi, j'étais très content, il était vraiment fidèle à son personnage, il sirotait son petit verre de vin en tenant sa cigarette du bout des doigts, enfin il a vraiment fait son Michel Houellebecq pendant la durée de l'interview, mais j'ai pas eu envie de lui demander son numéro de téléphone pour rester en contact ou essayer de m'incruster dans sa vie, pas du tout. Moi, c'était fini, quoi. C'était terminé. Ça me suffisait largement. Parce que ses idées, déjà, me posent souci. Enfin, je pense que c'est un gros réactionnaire, etc. Et que ça me donne pas envie. Enfin, c'est comme des gens comme Céline. Enfin, c'est peut-être qu'on peut apprécier leur livre, mais pas du tout avoir envie. Ils sont quand même assez infréquentables, quoi.
C'est peut-être aussi parce qu'il a une sorte de regard décalé sur la société. Lui aussi fait une sorte de pas de côté pour observer le monde. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est commun à votre
Oui, peut-être que
personnage.
je l'ai piqué un peu, mais de manière un peu moins radicale. Moi, je me rends un peu plus sympathique que lui. C'est vrai que lui, il a aussi ce côté, c'est pas vraiment caricatural, mais il pousse un peu comme ça, il grossit le trait, il y a le côté, des fois c'est de la farce, enfin Et moi, j'utilise un peu les mêmes procédés que lui, c'est vrai. Mais par contre, je me donne un peu plus le beau rôle, je ne vais pas aussi loin dans la noirceur que lui. Moi, je pense peut-être un peu plus au regard qu'on va porter sur moi. Et je pense un peu plus à mes lecteurs, à mes proches, à ma famille. Je me dis, il y a des choses que je ne peux pas écrire. Par exemple. Alors que souvent, les écrivains, moi, quand je rencontre des écrivains, ils me disent qu'ils ne s'interdisent rien, ils écrivent n'importe quoi, quitte à faire. Voler en éclats leur couple, à plus parler à leurs parents après la sortie du livre, moi j'en suis pas là du tout. C'est pour ça aussi que je me considère peut-être pas comme un vrai écrivain, c'est que je fais passer peut-être ma vie avant mon œuvre. En gros, il y a un côté comme ça. Je reste assez prudent, raisonnable. J'ai pas envie de pour avoir le Goncourt, de faire exploser tout en vol. Je tiens trop à mes amis, à ma famille, à ma chérie, etc. Et donc c'est vrai, et c'est un frein. Même quand j'écris des petits textes dans Novo, des fois je suis obligé un peu de m'auto-censurer parce que je me dis ça va être interprété, les gens vont dire pourquoi il a écrit ça, etc. Donc je fais un petit peu attention.
On va parler aussi un peu de votre style. Votre langue est vivante, précise, directe. On entend une petite musique pleine d'esprit et de drôlerie qui nous rentre dans la tête. On a l'impression d'entendre une voix singulière qui nous parle, qui peut avec une infinie souplesse passer du rire au spleen. Vous n'êtes jamais en fatigue. On sent que c'est un travail vraiment d'orfèvrerie. La place d'un adverbe, le choix d'une virgule, tout procède de votre manière un peu désenchantée de regarder le monde. Et le résultat ne se veut pas spectaculaire, mais vous savez employer le mot qu'il faut au moment où il le faut pour exprimer quelque chose que nous aurions du mal, nous, à formuler. À plusieurs reprises, je vous ai lu et je me suis dit intérieurement, voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le dire. Enfin, je peux citer quelques phrases. J'avais les genoux en sang, mais l'avenir devant moi. J'avais des amis, mais mon banquier n'en tenait aucun compte. Elle a les yeux brillants comme une rivière poissonneuse en plein mois d'août. Pour lui, la vie était devenue aussi étouffante qu'une poignée de sable en travers de la gorge. Ses grands yeux tourbillonnaient comme des papillons surpris par le rayon laser d'une boîte de nuit. C'est qu'un petit échantillon sur
Non, vous avez
plus de 300 pages.
gardé les meilleurs.
Comment avez-vous travaillé cette langue, Philippe Schreyer?
Ça, c'est très compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours, enfin, je sais pas si c'est toujours, mais en tout cas, depuis un moment, je cherche à pas faire d'effet de manche, de pas faire trop de style. J'aime pas trop quand les. En tout cas, je me sens incapable de ça, faire des phrases compliquées, de vouloir frimer avec mon style, etc. J'essaye d'être sobre, effectivement. Et si on me dit que c'est juste ou que ça correspond à ce que les gens ont pensé et tout, c'est vraiment un super compliment parce que moi, j'ai l'impression de jamais vraiment de pas avoir les bons outils pour arriver à dire exactement ce que je pense. J'ai l'impression que je suis toujours assez loin de ce que j'aimerais dire, de ce que j'aimerais communiquer. Donc je communique, je transmets quelque chose, je fais passer des choses, mais j'ai l'impression que ça me manque de quelque chose, que c'est toujours c'est très très sobre. Enfin, c'est comme si je voulais faire un énorme roman touffu, mais que j'arrive à peine à faire de la BD, quoi. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là
Vous êtes dans une forme de minimalisme en même temps.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est le finalement, en disant très peu, j'arrive à faire. Les gens s'imaginent plein de choses, quoi. Donc c'est pas mal, quoi.
À un
C'est
moment
pas.
donné, il y a un personnage dans une des nouvelles qui dit à votre narrateur, votre personnage, vous êtes un génie car vous parvenez à suggérer une existence entière en une seule phrase. C'est un petit peu ça le défi que vous vous lancez à chaque fois?
Ouais, bon, j'aimerais bien. Hein, si j'arrivais à faire ça, ça serait pas mal. Hein. Oui, mais c'est surtout que j'arrive pas. En fait, j'aime pas les gens qui font des choses trop voyantes, trop clinquantes, trop baroques. Enfin, moi, j'aime bien les écritures un peu plus sobres. Et puis, c'est surtout que je suis pas capable de faire autre chose. Hein. C'est ça, finalement, on fait ce qu'on est capable de faire. Et c'est vrai que des fois, je ressens des choses et j'aimerais les transmettre. Et c'est compliqué pour moi, j'ai du mal à y arriver. Par contre, en écrivant des choses, peut-être que tout d'un coup, j'arrive à faire ressentir plus que ce que je m'imagine moi-même, quoi. Je sais pas.
Et l'écriture, c'est un acte qui coule de source ou il y a une difficulté à écrire?
C'est quelque chose de.
Vous revenez souvent sur votre texte
Oui,
ou...
moi je suis quelqu'un de laborieux, je suis pas du tout, je suis pas un génie comme ça qui serait capable d'écrire des kilomètres. d'un trait, etc. Non, non, pas du tout. Moi, c'est vraiment, c'est le mot travail d'orfèvre, il est un peu trop. On a l'impression que c'est vraiment que je fais des bijoux, mais par contre, la manière, je travaille à la manière d'un orfèvre, c'est-à-dire que je vais reprendre, je vais relire plusieurs fois, et en relisant, je vais me rendre compte de ce qui va pas, il va falloir que je m'y remette, etc. Après, ça dépend. Il y a des textes qui vont, ça va plus vite, il y en a d'autres où c'est vraiment, je suis obligé de changer, il va y avoir 30 versions avant d'arriver vraiment à quelque chose de ciselé.
Et tout ça à 3 jours du bouclage. Donc on imagine que c'est un exercice de concentration extrême.
Ouais, enfin, concentration extrême, il faut pas exagérer, mais c'est vrai que le fait d'avoir la contrainte, c'est vraiment important pour moi. Et si un jour je devais écrire un livre plus long, etc., il faudrait vraiment qu'on me dise, voilà, tu vas avoir le chèque au bout dans 2 mois, tu as le chèque, il faut que tu as 2 mois pour te mettre au travail. Tu t'enfermes dans un monastère et tu écris, là peut-être que j'y arriverai. Mais sinon, de me dire, demain je commence à écrire un roman et je suis libre, je peux le rendre quand je veux et j'écris quand je veux, etc., ça fonctionne pas, j'y arrive pas.
Vous vous aidez de notes, vous prenez des notes dans des carnets pour nourrir les futures histoires.
Non, pas du tout. Des fois, je me dis, et des fois, je regrette de ne pas avoir tenu de journal, par exemple, quand j'étais plus jeune. Ça serait une fabuleuse matière, par exemple. On parlait de Bukowski, de gens qui ont eu des métiers un peu difficiles, travailler dans des abattoirs, des choses comme ça. Moi, à l'époque où j'étais étudiant, j'ai fait beaucoup de travail en intérim. Et si j'avais une meilleure mémoire, j'adorerais faire un livre qui raconterait ces expériences-là. Parce que c'était vraiment c'était presque du niveau de Bukowski, en fait. Il y avait vraiment. Malheureusement, j'ai jamais eu le. La force, ou je sais pas comment dire, d'écrire un journal, c'est pas un truc que j'ai fait. Donc j'ai pas une super mémoire, donc tout ça c'est perdu, quoi.
Parce que
Enfin.
j'ai l'impression que vous êtes traversé en permanence par des idées de romans.
Ouais, c'est vrai, parce que comme j'ai ce fantasme de devenir écrivain ou d'écrire un livre, c'est vrai que ça revient souvent. Et il y a des gens, par exemple les éditeurs dont je parlais tout à l'heure, La Dernière Goutte, pendant longtemps, chaque fois qu'ils me voyaient, ils me disaient, allez, écris ton roman, envoie-le nous et tout. Et je leur promettais, ouais, dans 6 mois, je vous rends quelque chose. Et du coup, ça m'obligeait à réfléchir à des idées de roman. Et donc, peut-être qu'un jour, je pourrais écrire un livre avec toutes les idées de roman, comme il y avait le livre d'Édouard Levet avec les idées d'expo ou d'œuvres d'art.
Alors vous pourrez écrire un livre sur des idées de romans, mais vous pourrez également écrire un deuxième livre sur des idées de films, parce que le cinéma, on l'a évoqué, est vraiment très très présent aussi. Vous avez une écriture déjà qui est cinématographique, qui est visuelle. Quand on vous lit, on voit les choses, on voit la mise en scène, on voit quasiment la caméra qui bouge parfois. Et il y a des idées effectivement de films potentiels. C'est truffé comme ça de références cinématographiques et on sent une vraie envie, aussi percée parfois un regret de ne pas avoir pu faire de cinéma.
Non, en fait, c'est marrant, mais c'est vrai, le fantasme, c'est quand même plus l'écriture. J'adore le cinéma, mais je me vois pas diriger des équipes, diriger des comédiens. J'ai eu des petites expériences comme ça de figure. J'ai fait un peu de figuration sur des films et je me suis dit que c'était vraiment pas le milieu qui m'attirait. Puis surtout, c'est vraiment quelque chose. Moi, je suis très bien tout seul dans mon coin à faire mes magazines. Je me vois pas diriger des équipes. J'ai pas du tout un tempérament fait pour ça.
Sauf si c'était peut-être des films faits avec des amis, comme c'est le cas par exemple des cinéastes que vous aimez, Cassavetes,
Ouais.
Ettore Scola, Claude Sautet. Enfin voilà, ce sont des films qui parlent à la fois d'amitié, de bande, et ce sont des films faits en bande.
Ouais, mais je sais pas, je crois que je suis pas un leader, enfin, je suis pas un leader naturel comme ça, et même de faire des choses à mes amis, c'est quelque chose qui me met pas. C'est pas quelque chose d'évident pour moi, et c'est pas un fantasme non plus, donc, et puis, je sais pas, il y a la technique, tout ça, enfin, non, non, je trouve que mon fantasme, ça serait plutôt d'arriver à écrire ces histoires-là. En fait, mon fantasme ultime, c'est vraiment d'arriver à faire rentrer la vie dans un livre, mais je pense que c'est pas possible. Quand je vis quelque chose que je trouve fort, etc., quand je l'écris, ça me paraît toujours moins fort que ce que j'ai vécu il y a.
Faire rentrer la vie dans des livres, il y a aussi des gens qui ont réussi à faire rentrer la vie dans des films. Pense à Truffaut. Vous lui faites un très bel hommage dans un texte qui s'appelle Entre les lignes. Vous écrivez: J'aime revenir à Truffaut, à ses films et aussi à sa correspondance. Truffaut raconte que faire un film ou écrire une lettre, ce n'est pas très différent. Alors j'aimerais vous demander enfin, ce que Truffaut représente pour vous, et puis vous demander pour terminer, au fond, ces textes n'ont-ils pas été écrits eux aussi en pensant à certaines personnes?
Si, si, ça c'est sûr, forcément, quand j'écris, je pense à des gens. Des fois, c'est pas. Il y a des gens qui crois que je pense à eux, je pense pas à eux. Des fois, il y en a qui comprennent. Enfin, et ça m'aide aussi de penser à des gens, des fois à des amis qui ont des soucis, etc. De me servir de ça pour écrire des textes. J'ai l'impression que je leur fais un petit clin d'œil, quoi. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, Truffaut, ben, c'est pas très original d'aimer Truffaut, hein, mais c'est vrai que c'est un cinéaste. Moi, je l'ai découvert vraiment au moment de sa mort, parce que je me souviens que les Cahiers du cinéma avaient publié un hors-série que j'ai acheté, je sais plus trop comment, et qui était vraiment magnifique, avec des gens, Depardieu et compagnie, qui parlaient de lui. Et c'est un truc que j'ai... hors-série que j'ai dévoré, que j'ai lu et relu, et après seulement j'ai découvert tous les films, et c'est des films que je peux revoir. Là récemment, j'ai revu plein de fois L'argent de poche avec mon fils qui a 4 ans. C'est un film génial, qui à l'époque n'était pas le film de Truffaut que je préférais, mais maintenant tout d'un coup, je trouve vraiment ce film. Non, non, bah, Truffaut, voilà, c'est comme beaucoup de gens. C'était peut-être effectivement, mais peut-être qu'il parle, lui, il parle beaucoup d'amour. Il parle beaucoup des livres, enfin, je sais pas. Mais à l'époque, c'était parler des livres au cinéma, c'est pas forcément ce qui m'attirait le plus, quoi. Ou parler des morts, comme il le fait. À l'époque, c'est pas ce qui me touchait le plus non plus. Mais maintenant que je commence j'ai eu mon lot de morts, etc. Et c'est vrai, et je trouve ça chouette, finalement, de continuer à les faire vivre à travers des livres ou des films, etc. Donc je le comprends mieux maintenant, finalement.
Merci Philippe Scheuer.
Merci Nicolas Vézard.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reason, that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love. For the workers in song, probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got a way I never once heard you say. I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.